Salut, c'est Cédric, freelance et fier de l'être. Dans Shortcut, je mêle mes retours d'expérience aux témoignages d'invités pour t'aider à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance.
Shortcut. Ton raccourci vers l'indépendance.
Aujourd'hui, je suis avec un serial entrepreneur, le cofondateur de 6 sociétés qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Tu connais sûrement Kimono et aujourd'hui, son activité principale, c'est son startup studio qui s'appelle La Chapelle. En parallèle, il continue une activité en solo à travers sa société perso Le Plongeoir, qu'il a depuis plus de 10 ans. Tu l'auras reconnu, c'est Hugo Benz dans Shortcut. Et on parle de pas mal de sujets. Sa vision en tant qu'entrepreneur, entre travailler en solo ou s'entourer d'une équipe. Entre travailler pour ses clients et travailler sur son futur et sur sa vision. On va parler de son organisation au quotidien, entre ses différentes boîtes et sa vie de famille. De son rapport à l'organisation, à la productivité et à l'efficience. Et de son rôle de papa. Normalement, dans ce podcast, je rebondis sur les expériences des invités pour te partager la mienne. Mais pas cette fois. Alors prépare-toi à passer un temps de qualité en tête-à-tête avec Hugo et à boire ses paroles.
L'entrepreneuriat, c'est assez large. Et en fait, il en faut un peu pour tous les goûts et il en faut pour tout le monde. Et c'est vrai que parfois, l'étape 1 peut être le freelancing et après, on passe à l'étape startup. Mais il y en a des, en fait, à l'étape 1, ils passent directement à l'étape de bébé startup. Tu vois, et encore une fois, il n'y a pas l'une des deux étapes qui est plus valorisée que l'autre. C'est juste qu'il y en a qui ont tout de suite l'intuition, qui veulent en fait monter une startup, avoir de la croissance, monter des équipes, puis peut-être éventuellement scaler. Mais après, il y en a qui veulent, ça ne les intéresse même pas de passer à l'étape scale. Il y en a, s'ils restent 10 ans et qu'ils font 5% de croissance par an, ils seront très contents. Et il y a, à côté de ça, il y a ceux qui restent freelance toute leur vie parce que ça les intéresse pas de monter une équipe. Ils aiment bosser en solo, ils aiment leur ultra-liberté, etc. Et en fait, moi, encore une fois, je respecte les deux. Et en fait, la preuve, moi-même, je suis un exemple qui est même un peu hybride dans le sens où mon kiff, c'est quand même de monter des startups. Mais j'ai également ma boîte où je suis tout seul en freelance. Et en fait, où je m'oblige à ne pas recruter et à ne pas essayer de scaler cette boîte. Et je la maintiens. Alors, elle se maintient tous les ans aux alentours d'1 million d'euros, etc. Et c'est vrai que je me dis, putain, mais je pourrais la passer à 1,5 million, 2 millions. Mais ça m'obligerait à recruter des gens, peut-être à être moins rentable au début. Et en fait, il faut juste en fait, être en accord avec ses objectifs. Et moi, l'objectif de ma… Alors, moi, ce n'est pas une micro-entreprise, c'est une SARL, parce que je suis du coup associé avec ma femme. En fait, le but de cette boîte, c'est de cracher un maximum de rentabilité pour que nous, on soit bien financièrement et que je me sente totalement dérisqué et totalement serein pour passer du temps sur les startups qui ne vont pas me rapporter la première année, la deuxième année, la troisième année ou même la quatrième année. En fait, voilà, c'est à partir du moment où on est clair et net et on est honnête avec ses propres objectifs, bah en fait, pour moi, il n'y a pas de hiérarchisation de l'entrepreneuriat, au contraire. Je suis depuis 12 ans sur le même marché. Donc, j'ai des deals historiques que je gère moi-même. Et donc, du coup, en fait, c'est que je choisis mes deals. C'est-à-dire que je refuse certains clients. J'ai abandonné certains clients. Donc, les clients qui prennent beaucoup de temps avec fort peu de marge et peu de récurrence. Et en fait, au bout de 12 ans, bah, en fait, je n'ai gardé que les plus gros, les plus automatisables, avec le plus de récurrence, le plus de rentabilité. Et du coup, j'ai amené sur tout ça la partie consulting et mentoring. Et encore une fois, l'expérience aidant, mes heures, mes journées sont de plus en plus rémunératrices. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à ces chiffres qui sont assez intéressants et encore une fois, qui me permettent de bien dormir la nuit et d'être totalement open et créatif sur le reste, puisqu'en fait, l'argent, je n'y pense pas. Et souvent, l'argent, c'est toujours le même, c'est toujours le problème, en fait. Donc, à partir du moment où, pour moi, en fait, avoir beaucoup d'argent, c'est pas pour kiffer aux Bahamas, etc. C'est juste pour oublier que ça existe. Et à partir du moment où tu oublies que ça existe, et surtout aussi où tu peux te donner l'opportunité de te mettre sur tel ou tel projet parce que du coup, tu as la trésor dispo pour démarrer, tu as la trésor pour investir, etc. Tu n'es pas dépendant de banques, d'investisseurs dès le départ, etc. Du coup, en fait, ça t'apporte encore plus de liberté, quoi. L'activité solo, encore une fois, de semaine en semaine, j'automatise, je sous-traite. Par contre, je n'ai pas de salariés, mais j'ai des freelances. Tu vois, j'ai des prestataires. Parce que le but, encore une fois, c'est d'y passer le moins de temps possible. Moi, j'ai longtemps itéré sur cette introspection. D'ailleurs, maintenant, je suis hyper serein et conscient de combien vaut une journée. Et donc, en fait, à partir du moment où, si je dois passer une journée sur quelque chose où j'estime que ça coûte X et que je peux le sous-traiter à X moins quelque chose, et ben, du coup, je ne me pose même pas la question, je le sous-traite, puisqu'en fait, là où je veux passer de plus en plus de temps, c'est sur mon avenir. Et donc, du coup, mon avenir, c'est la chapelle. Le plongeoir, donc, qui est ma boîte personnelle, encore une fois, c'est juste un outil. C'est juste un outil pour me dérisquer, pour vivre normalement, pour vivre aisément et sans avoir à me poser de questions. Cette partie consulting et mentoring, dans un sens, c'est hyper récent, puisqu'en fait, je me suis mis dessus, bien malgré moi, depuis un an maintenant. Et en fait, ça a concordé avec le moment où j'ai commencé à sortir du bois et à prendre la parole, notamment sur LinkedIn, et en fait, même essentiellement sur LinkedIn, puis également dans des podcasts, et puis après dans des conférences, dans des interventions, encore une fois, dans des webinars, dans des écoles, etc. Et du coup, en fait, de cette mise en avant et en fait de cette visibilité que j'ai prise, de cette crédibilité que j'essaye d'asseoir et de cette marque personnelle que je crée, du coup, j'ai des opportunités de consulting, de mentoring qui me sont arrivées. Et en fait, au début, j'ai démarré par un prix, je pense, assez bas, parce qu'au début, tu sais pas combien tu vaux. Tu es même presque un peu gêné, en fait, de donner des prix élevés. Et en fait, à un moment donné, c'est l'offre et la demande. Plus les offres arrivaient, plus j'augmentais mon prix. Puisqu'en fait, moi, ça me permettait aussi de filtrer, parce que mon temps, il est certes élastique, mais il n'est pas infini. Et donc, en fait, c'est comme ça que la journée, je pense que j'ai dû commencer il y a un an à 300 balles. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 1 500 €. Et l'heure, j'ai commencé à 200 €. Et aujourd'hui, maintenant, on est plus entre 500 et 800 €, quoi. En fait, moi, c'est un peu là où je place, en fait, mes curseurs sur la partie perso financière. C'est gagner le plus en le moins de temps possible pour passer le plus de temps sur les choses qui ne rapportent pas d'argent aujourd'hui, mais qui me font le plus kiffer. Aujourd'hui, en termes de demande, je pourrais passer ma journée à faire du mentoring. Mais le problème, c'est que moi, au bout de, franchement, 2-3 heures de mentoring maximum dans la journée, déjà, je trouve que tu es éreinté. Parce qu'en fait, moi, pendant une heure de mentoring, je donne tout, quoi. Je fais comme si c'était ma boîte. Je suis corps et âme. Je sais que la personne a payé, qu'elle a une heure. Et je veux pas qu'il y ait des moments de blanc, etc. Donc, c'est hyper intense. Et du coup, je pourrais pas faire ça 7 heures dans la journée, tu vois. Donc, c'est pour ça que du coup, je bloque. Et même, tu vois, même pour te dire, hein, sur la partie mentoring, je bloque à maximum 10 heures dans la semaine. Tu vois, ça fait déjà quand même 2 heures par jour. Et ça, c'est, tu vois, les slots qui sont dans mon calendrier qui sont dédiés à ça. Et en dehors de ces slots, tu peux pas prendre de mentoring avec moi. Parce que, en fait, sinon, en fait, je serais mort et je serais pas aussi efficace et je serais pas aussi efficient. Donc voilà aujourd'hui comment je m'organise, quoi. En fait, c'est passer beaucoup de temps à travailler en fait sa vision et ses objectifs, que ce soit ses objectifs perso ou ses objectifs pro. Voilà, j'ai parlé de la méthode des OKR, hein, de la méthode des objectifs key result, qui pour moi encore une fois est la méthode la plus simple à mettre en place, mais sur laquelle en fait il faut passer du temps. Il faut pas se dire tiens vas-y pendant une heure je réfléchis à quels sont mes objectifs de l'année ou du trimestre, etc. Non, c'est quelque chose où il faut passer du temps, où il faut vraiment réfléchir, où il faut tout noter et ensuite où il faut prioriser. Parce qu'en fait, une fois que tu as tout noté, toi, c'est comme les fameuses bonnes résolutions que tu prends au jour de l'an. Si tes bonnes résolutions, c'est arrêter de fumer, arrêter de sortir la semaine, faire 100 pompes tous les matins, faire un marathon dans 3 mois, faire du tennis 3 fois dans la semaine, et j'en passe, c'est des meilleurs. Bah, en fait, là, tu as mis la barre beaucoup trop haute et donc, du coup, tu vas te décourager très vite. Donc, en fait, quand on fait ces objectifs, on peut noter tout ça. Mais ensuite, on les priorise. On accepte de savoir, de dire qu'il y a des choses qui vont être dans un temps 1, des choses qui vont être dans un temps 2, des choses qui vont être dans un temps 3. En effet, et en fait, après, de prendre le temps de le faire. Donc, en effet, si quelqu'un il a son activité de freelance et il a 3 gros projets, il se dit OK, aujourd'hui, je travaille quoi, 50 heures dans la semaine. Si moi, en travaillant 25 heures dans ma semaine, j'arrive à gagner l'argent qui est dans mes OKR, qui est mon objectif, et que du coup, ça me laisse 25 heures pour faire le reste. Combien de temps il me faut pour faire un podcast? Est-ce que c'est 10 heures par semaine? OK, bah, il me reste 15 heures. Là, j'ai 7 autres projets qui vont me prendre 10 heures. Hop, bim, je le fais. Par contre, j'en ai un autre là, et là, c'est un gros projet, ça va me prendre 15 heures. Bah non, il t'en reste que 5. Donc, du coup, ce projet-là, c'est pour plus tard. Quand tu auras plus optimisé la partie podcast et la partie projet 2, du coup, tu pourras te dégager un peu plus de temps. Ou par exemple, la partie freelancing, tu arriveras à faire autant ce qui te suffit en 15 heures au lieu de 25, puisque tu auras augmenté ton TGM, augmenté ton taux horaire, etc. Et ben là, du coup, c'est pile à ce moment-là que tu pourras te mettre sur d'autres projets. Et encore une fois, c'est toujours ces mêmes étapes. Je suis clair avec ma vision, j'écris mes objectifs, je time-block tout ça, je prépare mon agenda hebdo, je le suis de manière hebdomadaire à voir si c'est vraiment efficient, et tu fais le point tous les 3 mois et tu fais évoluer. Je commence déjà toujours par écrire mes objectifs perso. Donc, les objectifs perso, en général, pour moi, il y a trois blocs. Hein. C'est la partie famille, la partie amis et la partie santé dans laquelle je mets le sport. Donc, du coup, tu notes ce que tu veux faire pour ta famille. Donc, ta famille, ça va être, par exemple, amener ta fille à l'école, aller la chercher à l'école tel jour, tu vois, selon comment tu t'organises avec ta femme ou avec ton mari. Tu le mets dans l'agenda, donc du coup, ça c'est bloqué, tu le fais. C'est des moments, si par exemple le mercredi, il y a les activités, tu dis, c'est moi qui l'amène au foot, ou c'est moi qui l'amène à la danse, ou c'est moi qui l'amène au karaté, ou quoi. Bah, pareil, tu le notes, et du coup, il ne pourra plus rien avoir à ce moment-là. Pareil avec ta femme ou avec ton mari, est-ce que tu vas aller au cinéma à ce moment-là? Est-ce que tu veux déjeuner X fois dans la semaine avec... Alors, ça fait un peu militaire de dire tout ça, mais en fait, moi, je suis quelqu'un, dans tous les cas, qui a besoin de me mettre des cadres pour pouvoir faire ce que je veux. Si je ne mets pas de cadre, je n'y arrive pas parce que je ne le tiendrai pas. J'ai besoin, en fait, de... Tu vois, c'est un peu comme à l'image d'une démocratie. Si tu ne mets pas de loi, c'est l'anarchie. Ben, moi, je suis un peu comme ça. Si tu ne mets pas de loi, c'est l'anarchie dans ma tête et c'est l'anarchie dans mon agenda, quoi. Donc voilà, désolé pour la métaphore, mais c'est à peu près ça. Donc, tu commences par le perso. Tu vois, par exemple, même moi, je me suis mis en tête que le paddle tennis, c'est ma passion depuis un an et je veux en faire de plus en plus. Donc aujourd'hui, je joue tous les midis. Sans exception. Donc, du coup, ça me prend du temps. C'est-à-dire que je fais des pauses de 2h30 le midi, parce qu'on joue 1h30, plus la douche, le déj, le temps d'y aller, etc. Mais par contre, du coup, j'ai fait un compromis, c'est que je commence à bosser très tôt le matin. Donc, au début, ça ne m'a pas fait plaisir, parce que je ne suis pas un lève-tôt de base. Et j'ai réussi, en fait, à installer cette routine. Et j'étais motivé par le fait que ça me permettait de pouvoir faire du sport tous les midis, sans être moins performant au travail, puisque, du coup, ces heures que je perdais le midi, je les gagne, du coup, le matin. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si tu te lèves à 7h du matin et on va dire que ta journée, la journée se termine à, je sais pas, à 22h, ça fait quand même du coup une quinzaine d'heures dans la journée. Tu fais ça fois 5, alors je suis très nul en maths, ça va faire quoi, 75 heures, un truc comme ça. Bon ben voilà, si tu travailles 50 heures, ça te laisse quand même 25 heures pour faire le reste, pour faire le perso, la famille, les amis et le sport. Moi, ça me paraît suffisant. Enfin, ça me paraît honnête, quoi. C'est comme ce manichéisme du travail le week-end ou pendant les vacances. En fait, à un moment donné, si travailler, ça fait partie de tes passions, tant que ça ne prend pas le pas sur tout le reste, c'est OK d'y penser tout le temps. C'est OK de bosser 2-3 heures le samedi ou le dimanche. C'est OK de bosser une heure par jour pendant que tu es en vacances parce que, en fait… En fait, juste, tu as envie de le faire, quoi. Et tu vois, encore une fois, les journées sont tellement longues. Passer 1 heure, 2 heures, 3 heures là-dessus, c'est pas non plus la mort. C'est qu'une question, en fait, d'organisation. Et à partir du moment où tu es acteur de ça et que tu ne le subis pas, pour moi, il n'y a aucun problème, quoi. Moi, à un moment donné, j'ai été le genre de connard qui laissait tout le boulot à ma femme, notamment par rapport à ma fille, parce que je lui disais que j'avais pas le temps, que j'avais trop de travail. Mais encore une fois, à partir du moment où tu es OK avec le fait qu'il y a 15 heures dans ta journée, amener ta gosse à l'école où ça te prend une demi-heure, ou pas, ou moins, ou même peut-être un peu plus, c'est pas un problème. Le temps, tu peux forcément le trouver. C'est impossible de dire que 15 heures de ta journée, tu es obligé de travailler et tu ne fais que des choses importantes et urgentes. L'idée, c'est toujours un peu de prendre cette fameuse matrice d'Eisenhower, où en abscisse, tu as important par important et en ordonnée, tu as urgent par urgent. À partir du moment où en fait, tu arrives à faire la part des choses sur tes tâches, tes pensées, tes emails, les messages et tout ce que tu veux, de supprimer tout ce qui n'est pas urgent et pas important, tu arrives en fait à déléguer ce qui est urgent mais on va dire pas très important. Tu vois, moi, c'est souvent ce qui est urgent mais pas important, c'est ce que je sous-traite. Hein, c'est là où j'estime que j'ai moi-même trop de valeur ajoutée pour me mettre sur ces tâches-là. Et en fait, et pour la quatrième, c'est ce qui est pas urgent mais important. Et c'est juste que tu le feras plus tard. Tu vois, c'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait des objectifs. Ça, c'est quelque chose d'important, Mais bon, aujourd'hui, j'ai pas forcément du coup la bande passante pour le faire. C'est pas grave, je le remets à plus tard. Alors moi, j'ai juste une fille qui a 6 ans et demi. Et tu vois, j'estime que j'ai vraiment pris la part des choses à ce niveau-là, franchement, depuis un an. Donc tu vois, c'était pas inné chez moi. J'ai fait un gros, gros travail d'introspection, de test d'orga, de test d'agenda. J'ai pas essayé de changer mon mode de pensée. Moi, dans tous les cas, je pense que le seul moment où je ne pense pas au taf, c'est quand je fais du sport et quand je dors. Et encore, même quand je dors, je peux y penser. Donc, tu vois, encore une fois, j'ai accepté que ça, c'était OK, qu'il n'y a pas de problème. Je suis comme ça. Mais maintenant, bah, il ne faut pas que du coup, ma fille, elle grandisse sans père. Et moi, je n'ai pas envie de passer à côté de ça. Je n'ai pas envie d'être le numéro 2 à ses yeux. Donc, j'ai estimé que c'était une priorité. Et quand tu estimes que c'est une priorité, et bah, du coup, tu bloques le temps nécessaire pour le faire. Et surtout, j'ai choisi de mieux m'organiser pour que parce que là, en fait, là où il ne faut pas prendre le truc à l'envers, c'est que quand on passe du temps à ne pas travailler, et bah, en fait, il faut voir le temps du coup, qu'on gagne à faire autre chose plutôt que le temps qu'on perd à ne pas travailler et en fait, tout ce que du coup, on aurait pu faire pendant ces heures-là. Parce qu'à partir du moment où on a passé ce cap, c'est là-dessus qu'on peut être, je pense, plus serein. Parce qu'en effet, sinon, bah, si t'es là, tu culpabilises, tu penses qu'à ton taf. Là, comme tu dis, t'es en train de jouer au Lego. Mais en fait, t'as qu'une envie, c'est de regarder ces putains de mails que tu viens de recevoir ces 20 dernières minutes. Pareil, quand t'as accepté que bah, quelqu'un qui t'envoie un mail, bah, franchement, s'il reçoit une réponse le lendemain, bah, c'est pas grave, quoi. Si c'était urgent, il t'aurait envoyé un SMS ou un truc comme ça. Si t'envoyais un mail, c'est que c'était pas urgent. Et ça, c'est pareil, c'est un gros travail. Toi, par exemple, moi, mon rêve, c'est de regarder mes mails une seule fois par jour. Ce serait mentir que de dire que je les regarde une fois par jour. Je pense que je dois les regarder, je sais pas, 7-8 fois dans la journée. Mais je suis content parce que c'est mieux qu'avant. Moi, tu m'aurais pris il y a 2 ans. Je pense que je devais les regarder 50 fois dans la journée. Tu vois, mais tu le fais de manière inconsciente. C'est comme si, tu vois, un truc, tu vois, c'est un chiffre limite que je voudrais pas regarder parce que je pense qu'il est encore très élevé chez moi. C'est par exemple le nombre de fois où je réactive où je déverrouille mon portable. Et je pense que si on voyait le temps. Alors déjà, moi, le temps, je pense qu'on a beaucoup qui ont un iPhone, je reçois tous les lundis de voir le temps que j'ai passé sur mon tel. Je me dis, mais c'est fou, qu'est-ce que j'ai foutu sur ces heures-là. C'est-à-dire que c'est vraiment des heures où je n'étais pas intense, tu vois, où je faisais pas des trucs seulement importants et urgents. Et moi, c'est mon but, je sais que je n'y arriverai jamais à 100%, mais mon but, c'est de faire 1% mieux chaque semaine, même chaque mois, etc. Tant que tu t'améliores, bah, tu vas vers quelque chose de mieux, quoi. Le message que j'aurais à dire à ceux qui ne sont pas encore lancés mais qui veulent se lancer, bah, s'ils veulent se lancer, si c'est vraiment leur objectif, bah, en effet, déjà, le plus simple, c'est de le faire. Mais ça, encore une fois, c'est un peu un conseil à la con parce que c'est le conseil le plus simple. Il faut aujourd'hui, en fait, juste être en accord avec soi-même. C'est pourquoi on veut entreprendre? Quelles sont, en fait, ses vraies priorités dans la vie? Est-ce que si, dans la vie, ta priorité, c'est la sécurité? Bah non, n'entreprends pas, garde ton CDI parce que, du coup, c'est ta priorité. Si ta priorité, c'est la liberté, bah là, en effet, quitte ton CDI, tu seras dos au mur, essaye de prendre une rupture, comme ça, tu prendras le chômage pendant 2 ans, teste quelque chose. De toute façon, dans tous les cas, tu sais que tu n'as que 2 ans pour tester au niveau financier avec le chômage. D'ailleurs, merci la France au passage. Premier incubateur, on va dire, de France. Et voilà, et en fait, teste, comme tu seras dos au mur, tu n'auras pas de choix. Toi, c'est comme... Je reprends un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure avec le marathon. Si tu veux courir un marathon, bah, déjà, inscris-toi. Et à partir du moment où tu as une deadline, et bah, du coup, tu te sentiras obligé de le faire et tu n'auras pas le choix que de t'entraîner pour être auprès du jour J, quoi. Et comme tu dis, comme tu le disais, pour ceux qui veulent, on va dire, un modèle un peu hybride, bah, c'est vrai que le modèle le plus sécurisant, c'est le freelancing. Parce que le freelancing, bah, tu as quand même... Tous les mauvais côtés de l'entrepreneuriat, je trouve que tu ne les as pas avec le freelancing. C'est-à-dire quand même cette partie admin, recrutement, management. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien tout ça. Hein. J'aime beaucoup. Mais c'est juste que c'est vrai que c'est les parties pour moi les plus difficiles, plus que d'aller trouver des clients. Parce que ça, à un moment donné, si tu es bon dans quelque chose, tu as un bon produit qui a une demande, bah, franchement, normalement, si tu n'es pas trop con, tu vas trouver un premier client, ça t'en amènera un deuxième et un troisième et un quatrième. Et ensuite, tu t'arrêtes quand tu n'as plus le temps, en fait. Tu vois, c'est dit comme ça, c'est simple. Mais je pense que dans la pratique, en vrai, c'est simple. Et si tu n'y arrives pas, bah, c'est pas grave, c'est juste bah, que t'es pas fait pour ça et retourne dans le civil, en CDI, il n'y a pas de problème, au moins t'auras essayé, quoi.
Ça te donne des idées ? Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous très vite pour la suite.